повесить, застрелить его при цели в толпе. Страшная, безжалостная, жестокая толпа мужчин и женщин окружала человека.
Si un homme a beaucoup plus qu'il ne faut, c'est que d'autres manquent de l'essentiel. Lev Nikolaïevitch Tolstoï. Léon Tolstoï, sa vie, son œuvre, son engagement dans la Russie du 19e siècle. Une émission de Claude Ferret.
Bonjour à toutes et à tous. Nous retrouvons de nouveau ce mois-ci Claude Ferré. Bonjour Claude.
Bonjour chers auditeurs.
La vie de Tolstoï, c'est la suite. Nous sommes en pleine libération des serfs. Tolstoï revient sur ses terres après ses longs voyages en Europe. Il se lance dans la scolarisation des enfants de Moujik et il entreprend le chef-d'œuvre de sa vie, Guerre et paix.
Nous sommes donc le 19 février 1861, c'est-à-dire il y a tout juste 140 ans. C'était l'abolition du servage en Russie. Donc Tolstoï, Manu vient de le dire, vient de rentrer de son second et dernier grand voyage en Europe. Il arrive, comme nous l'avons dit dans l'émission précédente, en juillet 1861 sur ses terres. J'en ai déjà parlé, mais on va encore aujourd'hui développer un peu plus le sujet. Comme je l'ai déjà dit, Tolstoï est un passionné de ses moujiks. Il a bien compris qu'il fallait faire quelque chose, qu'on ne pouvait plus continuer ainsi. Donc, de ses grands voyages, j'ai dit la fois précédente, il a rencontré Proudhon à Bruxelles. Cet homme, cet anarchiste qui avait dit déjà que la propriété était un vol. Donc, Tolstoï est très intéressé par ces théories-là qu'il va développer. Il a rencontré Dickens à Londres, avec lequel ils ont parlé longuement d'éducation. Tolstoï va lire plus tard Henry George, un Américain, un humaniste américain, qui va parler aussi de la répartition des terres, et un Anglais qu'il a étudié, qui s'appelle Herbert Spencer. Mais on en parlera plus tard. C'est pour montrer les influences de Tolstoï. Donc Tolstoï, dans ses juillet, dès qu'il arrive à Yasnaya Polyana, dans son grand domaine, il y a deux questions qui vont le préoccuper en tout premier lieu. Ça va être de participer à la libération des serfs, hein, c'est-à-dire que ça vient d'être publié en 19 février 1861, mais il y a du travail. Donc deux sujets, libération des serfs et scolariser les enfants des moujiks. Car il a bien pris conscience, évidemment, comme d'autres, que sans éducation, pas d'évolution possible. Donc, dès son arrivée juillet 1861, par les chefs de la région, étant un aristocrate cultivé, déjà écrivain reconnu, Tolstoï est nommé arbitre de paix. Arbitre de paix, ça veut dire conciliateur des litiges. Je pense que je l'ai déjà dit la fois précédente. C'est évident, qu'est-ce qui se passe dans cette répartition des terres? Donc, il est conciliateur des litiges. Il faut travailler à répartir, à qui appartient ainsi, comment on s'organise. C'est un bouleversement, c'est un énorme bouleversement qui se passe ici. Donc, Tolstoï s'engage à fond dans cette répartition des terres. Il s'engage tellement à fond que ses voisins aristocrates et grands seigneurs se disent « Mais ce Tolstoï, il va nous ruiner, il va tout donner aux serfs. » Tolstoï attendait ça avec impatience, bien évidemment. Hein. Et donc, Tolstoï n'avantage dans la répartition que les serfs. Et au bout d'un an, Tolstoï, il est viré, quoi. il est viré par les autres qui disent « mais il va nous ruiner Tolstoï, là, quoi ». Mais c'est pas grave, Tolstoï n'en est pas, n'a pas peur de cela, et il va continuer. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Qu'est-ce qui se passe, en réalité, dans cette première libération des Serbes? Parce que c'est assez complexe, quand même. Même moi, j'ai du mal à tout comprendre, les contours et les définitions de tout cela. Donc, ce que j'ai compris, quand même, c'est que Alexandre II, déjà en 1856, avait dit « il faudra libérer les Serbes ». Pourquoi ? Parce qu'une pression sociale montée, hein, comme on le voit aujourd'hui dans les pays qu'on entend à la radio, une pression montée, et ils avaient aussi les grandes industries, les grandes fabriques naissantes, milieu 19e, avaient besoin de main-d'œuvre, comme on verra plus tard dans d'autres émissions, lorsqu'on libère les Serbes, mais aussi parce qu'on a besoin d'eux dans les villes. Donc déjà, comme je l'ai dit, Tolstoï avait déjà, en 1856, essayé de devancer la décision du tsar de libérer les Serbes. Alors donc, comme je dis, lui, il n'est pas d'accord, alors que le pouvoir libère les paysans et leur attribue des terres, sans leur donner vraiment les moyens de les cultiver. Certains serfs libres doivent aller travailler dans les industries naissantes et continuer à payer au seigneur une redevance pour pouvoir aller à la ville, ce qu'on appelait l'obrok. Et Tolstoï, ben voilà pourquoi il a été viré, parce qu'il va au-delà de tout ça. Il veut toujours être en avance, quoi, toujours être un pionnier, fidèle à sa volonté de construire une société plus juste. Il bouscule toutes les ordres, l'ordre établi, quoi. Donc, il se contente pas de mettre en place un système d'éducation pour les paysans. Il instaure un mode de vie, de travail, de la terre, basé sur un système déjà communautaire. Il ira lui-même jusqu'à refuser la location d'une partie de ses terres au profit des paysans. Alors, il est évident, Tolstoï, c'est facile à comprendre, il est évident, dit-il, que la cause de cette misère provient du fait que la terre n'appartient pas aux paysans, quoi. Mais se trouve entre les mains de gens qui jouissent de ce droit de propriété qui vient du travail d'autrui. Ça, c'est facile à comprendre. Donc, une petite révision, eh bien, il faut savoir que les serfs appartenaient complètement au seigneur et que cette fameuse loi de 1861 abolit cet état de fait. Les paysans et les serfs domestiques libérés du servage reçoivent les droits civils attachés aux personnes et aux biens des sujets ruraux libres, tout en gardant leur droit de propriété sur l'ensemble de leurs terres. Les propriétaires fonciers cèdent à leurs paysans en jouissance contre-devance les maisons rurales avec leurs dépendances selon les règles locales. Et par exemple, pour le lot qui leur sera attribué, les paysans sont tenus d'acquitter au profit du propriétaire foncier les prestations en argent ou en travail déterminées par les règlements locaux. Les paysans affranchis sont groupés en communes rurales pour les questions économiques, en cantons pour l'administration et la justice locale. Dans chaque commune et chaque canton, les affaires de la collectivité sont réglées par son assemblée et ses autorités élues. Enfin, les propriétaires fonciers, évidemment, conservent le droit de police seigneuriale et la tutelle des communautés rurales, tant que durent les liens de dépendance à l'égard du propriétaire. Voilà. Donc, on voit que Tolstoï a toujours ce souci d'équité et les formes nouvelles de partage qu'il entrevoyait et essayait de mettre en pratique, comme je l'ai dit au début, étaient inspirées pour lui de cet humaniste américain Henri George et aussi de Proudhon qu'il avait étudié et qui prêchait déjà une forme de nationalisation de la terre. Donc, on voit que Tolstoï avait en gros 60 ans d'avance sur la révolution russe. Hein. Mais il n'était pas le seul, quand même, disons-le. Mais Tolstoï a quand même fait parler de lui. Alors, voilà ce qu'il dit, Tolstoï, inspiré de ses auteurs qu'il a lus ou rencontrés. La terre ne saurait être l'objet d'une propriété privée. Dire ça en milieu du 19e en Russie, c'est pas rien. Elle ne saurait être objet de vente et d'achat, pas plus que l'eau, l'air ou les rayons du soleil. Tous les hommes ont un droit égal sur la terre et sur tous les biens qu'elle produit. L'abolition du servage n'améliore pas énormément la vie des paysans. Il ne faut pas croire que parce qu'il y a la loi qui vient d'être passée, que tout est rose. Et donc, ils pourront quand même travailler pour eux, mais cette liberté qu'on leur propose, ils ne sont pas toujours d'accord. Ils ne sont pas toujours d'accord. On croit qu'ils ont été habitués pendant des millénaires à être sous le servage, dépendant du Seigneur qui leur donne à manger, un toit, tout ça. Jamais d'argent, bien sûr. Et Tolstoï se rend compte que les Serbes, ils ne veulent pas forcément leur liberté. Ils pensent encore qu'il va y avoir une entourloupette là-dedans, quoi. Et ils ne sont pas tous d'accord. Ils imaginent que c'est une ruse. Une ruse que le maître a pour mieux les exploiter. Alors, bien sûr, comment faire confiance à des maîtres qui les ont exploités depuis la nuit des temps ? Les paysans sont libres de cultiver la terre comme ils l'entendent, ça veut dire aussi qu'ils devront supporter l'achat des semences, payer des impôts, acheter du matériel, ça les affole bien sûr, se débrouiller par eux-mêmes. Pour certains, c'est une sorte d'abandon de la part du Seigneur. Tolstoï est bien conscient que l'on ne passe pas d'un seul coup de l'état de serf à l'état d'agriculteur ou d'exploitant agricole ou de fermier, quoi, à son compte. Il est conscient aussi qu'il ne sert à rien de donner sa terre en fermage à des individus qui reproduiront les mêmes injustices que les seigneurs, dit-il. Et oui, c'est pour cela qu'il propose de donner en fermage à un prix très bas une partie de ses terres à un groupe de paysans. Ça, il va travailler à organiser ces groupes de paysans avec un responsable où tous les revenus seront mis en commun, même les charrues, tout ça. Le revenu de cette location, voilà, ira dans un fonds commun géré par des personnes représentatives des paysans afin qu'ils servent au développement de tout le groupe de paysans. Je trouve que c'est des idées fantastiques qu'ils mettaient en pratique. À certains endroits, il alla jusqu'à louer la terre aux paysans en leur abandonnant le prix même de cette location. Sa femme n'était pas très contente, hein, évidemment. En agissant ainsi, Tolstoï disait qu'il se démettait de son droit de propriété foncière. Mais bon, ça n'est pas tout seul. Alors, il dit, Tolstoï, j'aime beaucoup ce qu'il dit, « Dans ce cas, seulement la terre ne restera pas en friche comme de nos jours, où les propriétaires, il est dur, hein, comme des chiens sur leur tas de foin, ou de fumier, on pourrait dire, ne laisse pas approcher de la terre ceux qui peuvent l'exploiter, eux, ces propriétaires qui en sont incapables. » Il ne lâche pas ses mots, quoi. Voilà, bon, bien sûr, on peut comprendre déjà que là, on est, sans le savoir, dans les bases un peu de... Les communistes en 17 vont un peu reprendre, enfin, un peu différemment, mais ils vont reprendre. Mais malgré toute cette vie que Tolstoï veut, sociale, communautaire, plus tard, il va se rendre compte qu'il voit que c'est très complexe de mettre tout en commun, de labourer ensemble, partager les mêmes chevaux, les mêmes charrues, et que toutes les vaches, les bœufs, les chevaux appartiennent à au groupe et que tout soit mis en commun. Alors, il comprend que si un être humain n'a pas directement des intérêts personnels dans son travail, il ne peut pas travailler correctement. Et oui, prendre à cœur sa tâche et la rendre productive et rentable. Il avait des idées tout à fait justes. Hein. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire ? Ben voilà, à partir de là, on ne va pas passer toute l'émission. On pourrait passer toute l'émission là-dessus, mais j'ai envie de parler d'autre chose, comme le programme le dit. Toute sa vie, Tolstoï, moi je trouve, rend à l'homme sa dignité. C'est ça qui m'intéresse beaucoup. Et aux paysans, aux serfs, aux moujiks, toutes leurs lettres de noblesse. Il voit en cet acte non seulement un acte de partage, mais une forme de résistance à l'exploitation de l'homme par l'homme. Il estime que l'homme doit être capable de subvenir lui-même à ses propres besoins au lieu de dépendre des autres. Et Tolstoï va montrer l'exemple, pas aux paysans qui travaillent, mais à tous les dirigeants, les aristocrates. Il va aller travailler, on le verra plus tard dans l'autre émission, il va aller lui-même labourer, travailler au champ, faucher et tout. On est arrivé un peu brièvement peut-être, mais ceux qui s'intéressent au sujet, il y a des tonnes de livres qui sont écrits là-dessus, hein. Donc l'objectif de ces émissions, c'est de faire connaître la vie et l'œuvre de Tolstoï. Donc on ne va pas s'étendre plus là-dessus. Je reviendrai dans les prochaines émissions encore sur ce sujet. L'événement qui est très important aussi, c'est que Tolstoï, enfin, va se marier. C'est quand même pas rien, ça. Il va se marier, il a 34 ans. Et le 23 septembre 1862, au Kremlin... À l'église de la Nativité de la Vierge, Léon Tolstoï se marie avec Sofia Andreevna Burs. Cette jeune fille d'à peine 18 ans, il a 34 ans, qui est la fille d'un médecin de la cour. Donc c'est quand même un grand événement parce qu'il sent que, comme je l'ai dit dans les émissions précédentes, qu'il voit bien que sa vie de débauche et d'aventurier doit cesser. Il sent qu'il veut s'ancrer, il veut vivre une vie de famille. Lui qui a perdu ses parents très tôt, il a ce grand domaine et il sent qu'il y a un grand chantier est devant lui, quoi. Donc il faut qu'il se marie, qu'il s'incarne dans une vie de famille et tout. Donc l'histoire du mariage de Tolstoï est légendaire. Ceux qui ont lu Anna Karénine, et j'en parlerai dans la prochaine émission, il décrit en réalité textuellement ce qui s'est passé lors de son mariage. Je ne vais pas le développer ici parce que c'est assez comique et ça peut être long, mais c'est vraiment très intéressant. Tout ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 3 semaines, il se marie. En 3 semaines, il connaissait déjà la famille, hein, la famille des Burs. Il connaissait la maman de Sofia Andreevna. Et donc, il a été les voir et en 3 semaines, donner sa fille au comte Léon Tolstoï, qui est déjà très riche, bien évidemment, mais déjà, comme je vous l'ai dit, connu au niveau littérature. C'est quand même un sacré honneur. Donc voilà, il se marie un soir, d'après ce que j'ai lu dans les journaux, je suis très étonné, le soir du 23 septembre 1862, à 8 heures du soir, la cérémonie est célébrée. Tolstoï, bien sûr, arrive en retard. La tradition veut que ce soit lui et qu'il soit arrivé à l'église avant, hein, mais il arrive une heure en retard. Il avait oublié sa chemise, enfin, des plans d'enfer, quoi. Et on se demandait s'il n'avait pas fait faux bond au dernier moment. Mais enfin, il arrive quand même. Et donc, après la cérémonie, mais il avait prévu son coup. Il emmène cette jeune fille de 18 ans qui sort d'une serre, elle sort du Kremlin, quoi. Elle fait des études d'institutrice quand même. Elle avait écrit un petit roman déjà, Sofia Andreevna. Il l'emmène, acheté ou loué un super carrosse avec 6 chevaux, bride abattue, dans la nuit, juste pas de fête, hein, ils s'en vont comme ça. Alors, tout droit, ils s'en vont 200 km au sud, à Yasnaya Polyana. Il emmène sa fiancée là-bas. Donc, c'est quand même une vie rude qui va arriver pour cette jeune fille de très bonne famille et habituée au salon et au faste du Kremlin, quoi, arrivée dans ce vieux manoir perdu dans la nature. Et donc, aussitôt le mariage, cette jeune fille s'adapte très vite à sa vie de comtesse. En fait, elle devient la comtesse Tolstoï. Hein. Il lui avait dit, voulez-vous que je vous emmène voyager en Europe avant de rentrer au travail, en gros, à la ferme hein. Non, ma tâche, je la sens, je vais tout de suite, ma tâche est là, je veux les clés du domaine. On lui rend toutes les clés de toutes les dizaines de pièces et tout de suite, à 18 ans, elle devient la responsable de Moujik au ciel, de domestique. Et voilà, donc Tolstoï, ils sont très très contents, très heureux d'être ensemble. Tolstoï découvre une nouvelle vie de mari. Très précisément, 9 mois après le jour du mariage, Tolstoï ne perd pas de temps, comme je vous l'ai déjà expliqué dans les émissions précédentes, 9 mois précisément, naît le premier enfant. Donc, ils sont là tous les deux sur leur domaine et il faut rentrer dans ce qui est important aussi, dans ce qui intéresse Tolstoï dans ce retour de ce deuxième voyage, 1862. 61, les serfs, libération des serfs, mais ça va continuer. Hein. Et ce sont les écoles. L'école, pour Tolstoï, va être très important. Ça va être 62-63, ça va être le moment où Tolstoï va faire son école la façon la plus élaborée. Une longue période, donc de 1862 jusqu'à 1881, va s'installer pour lui sur son domaine Yasnaya Polyana. Ça va durer 17 ans. Et c'est là, dans cette grande stabilité au fond de sa campagne qu'il aime énormément, avec sa femme, avec des enfants presque tous les ans, ses moujiks autour qui travaillent à les libérer, c'est là qu'il va entreprendre la réalisation de ses deux plus grands chefs-d'œuvre de sa vie, qui sont, comme vous le savez, Guerre et paix et Anna Karénine. Et en même temps que la rédaction de ses grands romans, il va se donner tout entier dans la recherche d'un rapport plus équitable avec ses paysans. Donc, il ouvre encore pour une troisième fois, parce que chez ceux qui ont écouté les émissions précédentes, il a déjà ouvert l'école 2 fois. Là, il ouvre une troisième fois son école avec ce jeune Allemand qui est venu, qui l'a ramené d'Allemagne, et des étudiants instituteurs qui sont venus de Moscou, jusque dans cette campagne reculée. Alors cette fois, l'école est quand même bien plus élaborée. Tolstoï aime enseigner les mathématiques, l'histoire, le sens de la religion. Et évidemment, de par son charisme d'écrivain, il communique à toutes les personnes qui le côtoient le goût de la lecture et de l'écriture. Il faut savoir que tout le monde écrivait sur tout le monde à l'époque où Tolstoï faisait ses écoles et après, quoi. Les enfants des Moujiks, après 6 mois d'école chez Tolstoï, ça c'est des preuves, il y a tous les journaux précis qui disent, savent lire et peuvent assez vite ensuite décrire leur vie quotidienne. C'est bien évidemment une véritable révolution. Les enfants arrivent à l'heure qu'ils veulent et sont libres de ne pas revenir le lendemain. Mais tous veulent y revenir. Et l'école est pleine. Alors bien sûr, parfois, les parents se disent « Mais qu'est-ce qu'il fait le comte Tolstoï avec nos enfants, là, alors qu'on a besoin d'eux pour travailler ?» Parfois, l'hiver, certains dorment dans la classe, Tolstoï leur donne à manger. Alors, la discipline de Tolstoï, comme vous le savez, il fait cette école pour rendre des enfants libres. Donc, les enfants s'assiedent sur les tables avec... Tolstoï s'assied sur les tables avec eux. Personne n'est puni, personne n'est récompensé. La seule récompense, l'élève la trouve dans le goût d'apprendre et de partager. Je trouve ça très très beau. Chacun écrit, comme je l'ai dit, sur tout le monde et ça donne, bien sûr, une sacrée dynamique et des problèmes aussi, parce que tout le monde révèle tout le monde. Mais c'est vraiment fantastique de pouvoir dynamiser les enfants comme ça. Alors les travaux manuels sont à l'honneur, sont au programme. Tolstoï est un passionné de sport, toutes sortes de sports. Il joue toutes sortes de sports. Il y a le tennis plus tard, mais c'est un peu tôt. En 62, c'est plus tard que le tennis viendra. Il organise des réunions avec les professeurs. Il arrive parfois même que les enfants viennent jusque dans la maison de Tolstoï et que sa femme participe aussi à donner des cours. Comme je vous l'ai dit, elle avait été institutrice sans jamais avoir enseigné. On peut noter que les petits paysans ont le droit de jouer avec ses enfants, ce qui n'est pas du tout évident. Une fois, Tolstoï a même obligé un de ses jeunes fils qui s'était moqué de l'un d'eux à aller lui porter un pot de confiture. Oui, les auditeurs qui vont m'écouter vont dire, mais dis donc, Claude Ferré, là, 1862, Tolstoï a juste un enfant, hein. Mais ce que je... Alors donc, ce n'est pas ses enfants, c'est ce que je raconte là, c'est plus tard que ça s'est passé. Mais bon, c'est pour donner le ton de, du travail que fait Tolstoï. Et on va entendre une enseignante qui va enseigner le russe à ses enfants dans l'école de Tolstoï.
Лес. Около леса река. В лесу сосны и ели. 100 лет росли они. Какие высокие сосны и ели. Красивые русские леса. Маша, повторяй за мной.
Не.
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 Ке.
Ке.
Те.
Те.
Се.
Се.
Ре. Ле.
Ле.
Бе.
Бе.
Сосна.
Сосна.
Осина.
Осина.
Ива.
Ива.
Ели.
Ели.
Тут встанут новые леса.
Тут встанут новые леса.
Молодец, Маша. Хорошо. Тике была интересная задача. На уроке чтения мы изучали звук Ч и букву Ч. Мы читаем слова «река», «речка», «рука», «ручка», «лиса», «лисичка». Потом будет работа в прописи. Вчера мы читали букву «Г», а сегодня «Ч». Последним уроком будет урок рисования. Ты рада, Маша?
Да.
Спала кошка на крыше, жала лапки. Села подле кошки птичка. Не сиди близко, птичка, кошки хитры. Был у Пети и у Миши конь. Стал у них спор, чей конь. Стали они коня друг у друга рвать. Дай мне мой конь. Нет, ты мне дай. Конь не твой, а мой. Пришла мать, взяла коня и стал конь ничей.
Петя и Миша avaient joué avec un cheval. Et chacun disait, il est à moi, non, il est à moi. Et chacun tirait le cheval vers lui. Finalement, la mère arrive, elle prend le cheval, et voilà, le cheval n'appartient plus à personne.
On voit donc que Tolstoï a un souci permanent d'éduquer, de transmettre le savoir pour conduire le peuple vers davantage d'autonomie. C'est aussi à cette époque, 1862, qu'il a entrepris, il faut signaler ça, de rédiger une revue pédagogique qui s'appelle Yasnaya Polyana, comme le nom de son domaine. Cette revue était pour lui un moyen de diffuser ses idées pédagogique, et puis ces idées qu'on pourrait presque dire révolutionnaires. Alors moi j'ai résumé ces idées ainsi. Il dit, les connaissances telles qu'elles sont enseignées réduisent ou réduisent la majorité du peuple en esclavage au profit d'une minorité en recourant à toutes sortes de sophismes, d'interprétations mensongères, de tromperies et d'escroqueries. Bien évidemment, au bout d'un an, une telle revue est censurée et interdite. Et Tolstoï, il y a des relais en France, en Angleterre, en Suède. Et ces revues-là sont partent sous le manteau, comme je l'ai déjà dit, et reviennent. Tolstoï sera un combatif toute sa vie. Rien ne l'arrêtera. Pour illustrer la pédagogie de Tolstoï, pour qui sera, ça sera mieux fait que je le dis encore. Il y a un auteur qui s'appelle Semyon Filipovitch Egorov, qui est un écrivain et pédagogue du XXe siècle, et qui décrit vraiment ce qui s'intéresse, la façon dont Tolstoï travaillait. Je vais, excusez-moi, ça va durer deux minutes. Je vais vous lire cet extrait que j'ai fait pour vous, je trouve qui est très explicatif. Voilà ce qu'il dit, Semyon Filipovitch Egorov, parlant de Tolstoï. Son programme comprenait la description de nouvelles méthodes d'enseignement, de nouveaux principes d'administration pour l'instruction primaire, de nouveaux modes d'organisation du processus éducatif, d'expériences d'éducation extrascolaire et de diffusion de livres parmi la population, ainsi que des monographies consacrées aux écoles ouvertes spontanément, avec une analyse de leurs qualités et de leurs faiblesses. Tolstoï lui-même publia dans cette revue quelques articles fondamentaux tels que l'instruction publique, comment enseigner à lire et à écrire, projet d'organisation des écoles du peuple, à qui doit-on apprendre à écrire et qui doit le faire, le progrès et la définition de l'instruction, dans lesquels il critique les vices de l'ancien système d'éducation, préconise une nouvelle école populaire et examine les moyens de développer les facultés créatrices des enfants, ainsi que de nombreuses autres questions. Pour Tolstoï, la tâche essentielle de cette revue consistait, à propos de ses expériences d'éducation libre, à étudier les activités spontanées faisant partie du processus d'apprentissage, dont la connaissance serait d'une valeur inestimable, dit-il, tant pour la pédagogie en tant que science que pour l'enseignement en tant que pratique. Il faut savoir que Freinet, ceux qui connaissent Freinet, s'est beaucoup inspiré de Tolstoï. C'est pourquoi il chercha à élargir l'éventail des contributions, tout en spécifiant qu'il ne voulait pour collaborateurs que des enseignants, ne considérant pas uniquement leur profession comme un moyen d'existence et comme une obligation, mais également comme un domaine d'expérimentation pour la science pédagogique. Enfin, l'activité pédagogique de Tolstoï fut fructueuse et lui apporta beaucoup de satisfaction, on le voit dans son journal intime, comme il est passionné de faire l'école. Mais elle suscita la méfiance des autorités tsaristes, on peut l'imaginer facilement. Il fut l'objet de persécutions et les idées exposées dans Yasnaya Polyana furent considérées comme subversives pour les principes fondamentaux de la religion et de la morale. Donc, comme tout à l'heure je le disais, le 12e numéro de la revue, paru en décembre 62, et il allait être le dernier. On arrive donc à la fin de ce tableau pédagogique. Tolstoï va se détourner fin 63 de l'école. L'école continue sans lui, et ce sont ses étudiants qui prennent le relais. Donc, qu'est-ce qui se passe pour Tolstoï ? Eh bien, pour Tolstoï, il sent qu'il y a quelque chose qui monte, il y a une sève qui monte là-dedans, lui. Hein. Et il va dire une chose que j'aime beaucoup, il va dire « La vie ne se maintient qu'à condition de se répandre. L'individu sent en lui une puissance intérieure. Il sent ce qu'il est capable de faire et prend par là conscience de ce qu'il doit faire. Pouvoir agir, c'est devoir agir. Ainsi, mon devoir moral naît de la surabondance de la vie qui veut s'exercer, s'épanouir. Ce devoir n'est pas une contrainte, c'est une puissance. Et lorsqu'on a une telle énergie, il va commencer son grand roman, Guerre et paix, en 1863, qui va durer 6 ans. Donc, on va dans cette fin de partie, chers auditeurs, j'ai envie de faire un arrêt sur image de Guerre et paix, parce que là, on peut dire qu'on a affaire à quelque chose. Tout le monde, les littéraires du monde entier parlent du génie littéraire de Tolstoï, du génie russe, mais du génie mondial, universel. Tolstoï va travailler comme un fou, comme un d'arrache-pied, pour écrire Guerre et paix. Vous savez que Guerre et paix, c'est l'histoire de la guerre sur fond de guerre napoléonienne, Napoléon qui va jusqu'en Russie pour conquérir toute cette belle Russie va être poussée par les Russes. Et à travers toute cette grande trame de guerre, eh ben, il y a toutes les histoires de l'homme qui sont retracées. Toute l'histoire de l'homme, l'amour, la vie, la haine, tout ça. Et va être passé à la moulinette, quoi. C'est une épopée ben, qui va, vous savez, de l'invasion de Napoléon jusqu'à Paris, reconduit par l'armée russe. Et Dostoï va décrire dans ce grand roman tous les aspects de la vie, du plus pauvre au plus riche, et chacun, de quelques conditions qu'il soit, pourra s'y retrouver. Durant cette période de rédaction, Tolstoï, malgré tout, parce que Tolstoï ne fait jamais qu'une chose à la fois, il va continuer à gérer son domaine et il commencera un peu à aller travailler avec les moujiks. Il monte beaucoup à cheval, il fait beaucoup de promenades avec ses chevaux et il va petit à petit délaisser l'éducation et il va se mettre à un travail herculéen, colossal, dans la rédaction de Guerre et Paix. Toutes ces énergies vont être concentrées quand même dans Guerre et Paix. Donc il avait besoin de stabilité, de cette stabilité. Il sentait qu'il lui fallait une stabilité, il sentait qu'il avait quelque chose à dire au monde et qu'il lui fallait cette épouse fidèle et dévouée pour se mettre à cette grande épopée, cette grande frasque de vie. Donc il l'appelait 1805 au départ, et ça va devenir Guerre et Paix, un titre qu'il a pris à Proudhon. Alors, qu'est-ce qu'il a fait durant ces six longues années? Eh bien, il a beaucoup lu. Il a lu, j'ai vu à Yasnaya Polyana, quand j'y suis allé, des immenses. Il a lu 15 gros livres de guerre, parce que les batailles dans Guerre et Paix, c'est historique, quoi. Il a été à Borodino, sur les champs de bataille, pour voir comment ça se passait, pour décrire. Donc, il travaille d'arrache-pied, et puis sa jeune, charmante femme passe des nuits entières à l'aider à recopier. Tolstoï écrit très très vite, illisible, et il faut qu'elle recopie. Mais elle a un plaisir immense à participer en direct au génie de son mari. Il faut savoir que Sofia Andreïevna, toute jeune, hein, donc de 19 ans à 25 ans, a passé son temps à recopier Guerre et Paix. Elle l'a recopié à la main plus de 7 fois. Sans parler de toutes les corrections qu'elle a fait, quoi. Donc il y a quand même 2000 pages, hein. Donc bien sûr, moi je trouve ça fantastique, Guerre et Paix. On parle de Napoléon, le grand Kutuzov, le chef de l'armée russe qui repousse à Napoléon. Alors évidemment, le grand héros, le prince André, Natacha Rostova. Quand vous êtes en Russie et que vous parlez du prince André, Natacha Rostova, Pierre Bezoukhov, Platon Karataïev, le vieux Bolkonski, les Rostov, ce sont des personnages vivants. Les Russes sourient. Ah oui, André Bolkonski, Pierre Bezoukhov, Tolstoï. La magie de Tolstoï, c'est qu'il a réussi à créer le monde, quoi, créer des personnages dans toute leur complexité. Oui, j'ai envie de dire, Tolstoï crée le monde parfois. Mais on va faire une petite pause en écoutant justement la voix du vieux Bolkonski, enfin la voix de la musique et un peu sa voix, c'est le père d'André Bolkonski.
Звание в обществе «Прусский король» с того времени, как при Павле был сослан в деревню, жил без выезда в своих лысых горах с дочерью княжною Марией.
Le vieux Bolkonski marche, si vous voyez le merveilleux, si vous regardez, je vous le souhaite, de voir un jour le merveilleux film russe de Guerre et Paix qui dure entre 6 et 7 heures. C'est le plus grand film au monde jamais fait en 1862 par ce célèbre réalisateur Sergueï Bondarchouk. Et c'est magnifique, là, dans cette scène que nous venons d'entendre, on voit le père du prince André, le héros. Le prince André va partir à la guerre et le vieux Bolkonski médite en marchant dans les allées. Son fils va partir à la guerre. Il est triste qu'il parte à la guerre, mais il est fier. Comme il dit, les Bolkonski ont la tête haute et vont servir le tsar, quoi. On ne renonce pas à ses devoirs de servir la mère Russie. Donc il est triste, mais c'est un honneur en même temps. Bien, donc ce que je dis, oui, en regardant tous ces personnages, Tolstoï va créer ces personnages. Et les champs de bataille, on a l'impression qu'on y est. Les salons de bal, la chasse aux loups dans Guerre et Paix, les amours de Natacha, des uns et des autres. C'est quelque chose, je trouve, où Tolstoï, comme on l'a dit déjà avec les Cosaques et bien d'autres romans, dévoile l'homme, dévoile les aspects de l'être humain. Et je trouve ça quelque chose d'absolument fantastique. Et voilà, j'ai envie de dire que pour moi, c'est plus qu'un roman. C'est plus qu'un roman, Guerre et Paix. C'est la vie puissante, je trouve, et riche, qui coule comme dans une vaste vallée. On a envie de dire que Guerre et Paix, ce sont des flots qui abordent des rivages insondés et qui révèlent toute leur beauté. On a presque envie de dire que Guerre et Paix est la Bible de la vie. C'est pas rien, quand même, déjà, ça. Mais c'est vrai qu'on y trouve tellement de facettes de l'homme. On y trouve toutes les facettes de l'homme. Et Tolstoï, là, vraiment, mais dans les autres, dans Anna Karenine aussi, on en parlera, et dans d'autres aussi. Mais là, on voit vraiment le créateur, le génie. Le génie, un peu comme un Beethoven, un grand musicien qui crée, quoi. Et Tolstoï, là, cet artiste nous entraîne malgré nous et vers des cimes vertigineuses au fil des pages, toujours plus haut. Quand j'ai lu deux fois Guerre et Paix, mais quand vous le lisez, vraiment, vous êtes dedans, mais on a l'impression de... Et je ne suis pas le seul à le dire, j'ai discuté avec des gens après qui m'ont dit la même chose. On a l'impression d'escalader, de monter et d'avoir une espèce de... à la fin, on a l'impression, toujours plus haut, et de contempler, c'est fou. Pas que je me sens le maître du monde, pas du tout. Mais on est le monde, on est tous ces personnages que l'on vient de voir, on est imprégné d'eux, on est imprégné de leur histoire. Et ce qui est beau, et c'est ça l'artiste, c'est qu'à travers tous ces personnages, on se voit. On voit toutes nos facettes de nous-mêmes. Et si Tolstoï a eu besoin de mettre en scène dans Guerre et Paix 526 personnages sans perdre les pédales, il faut le faire, c'est qu'il avait besoin, j'ai envie de dire, de 526 facettes pour exposer l'homme. Donc, quand vous êtes à la fin de Guerre et Paix, vous êtes en haut de l'Himalaya et là, vous avez une sensation d'une vue d'ensemble de l'humanité. Mais quel vertige aussi, quel vertige. J'ai quand même eu 8 jours de petite déprime quand j'ai terminé Guerre et Paix à la fin, parce que j'avais jamais beaucoup lu, et c'est quand même un monument, quoi. Il faut savoir que Tolstoï a vécu à la fin de sa rédaction de Guerre et Paix de 6 ans de travail. Ça lui a porté sur les nerfs quand même sacrément. Pas perdre de fil de 526 personnages, il a vécu une super dépression, comme tous les artistes, bien évidemment, hein. Donc, Tolstoï crée des êtres, voilà, il crée des êtres vivants, qui sortent de mes entrailles. Et à travers ces personnages, c'est toute la Russie qui est là présente. Et c'est non seulement toute la Russie, mais c'est l'homme universel qui est présent. Qu'est-ce qu'on peut dire de guerre et paix? On pourrait dire beaucoup de choses, mais l'heure tourne et il faut que je vous fasse, que je vous parle de ce magnifique film qui a illustré guerre et paix. En 1962, en Russie, il y avait un réalisateur très célèbre qui s'appelait Sergei Bondarchuk. Sergei Bondarchuk a réussi à mettre en scène cette immense épopée de guerre et paix. Et il est parvenu à cette aventure sans se laisser engloutir, dit-on, par l'ampleur littéralement biblique, dit-on, de ce miracle qu'est guerre et paix. Et je pense que plus d'un réalisateur, même chevronné, aurait dans les mêmes conditions succombé à l'ivresse du pouvoir et à l'illusion de la toute-puissance. Non, Sergei Bondarchuk n'est pas impressionné parce que lui-même, ce qui est assez fantastique, il a même parfois joué le rôle de Pierre Bezoukhov, qui est un des deux grands personnages centrales du roman de Guerre et Paix. Et ce qui est très intéressant dans ce film, Guerre et Paix, je l'ai, mais on peut le trouver. C'est le meilleur, bien sûr, il n'y en a pas deux, il y a un film américain, mais le film de Sergei Bondarchuk, 6-7 heures, c'est quelque chose de... La musique, on en a écouté des petits extraits, est magique et tout est magnifique, quoi. Tout est bien retracé. Alors on dit que c'est le film qui coûterait aujourd'hui 560 millions de dollars, ce qui fait à coup sûr, dit-on, le film le plus cher de l'histoire. Des scènes de bataille indescriptibles qui mobilisent 120 000 figurants, des milliers de fantassins, j'ai vu des extraits de, enfin, on appelle ça les rushs, hein, des milliers de cavaliers. Gracieusement offert par l'armée rouge. Alors on est en pleine guerre froide, on est en plein régime communiste. Et donc l'armée rouge, mais c'est un peu aussi pour... c'est quand même prestigieux de faire l'éloge de la Russie comme Tolstoï le fait là. Et donc l'incendie de Moscou, disent les spécialistes, par l'armée napoléonienne, fait passer celui d'Atlanta dans Autant en emporte le vent qu'on a vu, pour un gentil petit feu de cheminée. Alors, c'est vrai qu'on a l'impression que le tournage de Guerre et Paix laisse à penser que c'est le pays entier qui a servi de plateau de tournage. J'aime bien cette idée, quoi, que le pays entier a servi de tournage. Mais là, je vais arrêter de parler avant la fin et on va écouter un extrait du film qui est une course de traîneau magnifique dans la nuit par une belle troïka qui court bride abattue. Je vous encourage vraiment à essayer de trouver, si vous voulez que je vous le prête, vous vous adressez à Radio Sainte-Afrique et je peux vous On peut organiser même une soirée dans l'hiver sur un bel écran géant. Regardez les 6 heures, on peut le faire en 2-3 fois. De guerre et paix avec cette splendide musique. Alors ce qui est intéressant dans ce grand écran, c'est qu'il a eu quand même, en pleine guerre froide, il faut savoir que en 1868, puisque le film s'est pas fait, il s'est fait en 5-6 ans, hein, c'est pas fait en une année, hein, bah c'est gigantesque. Là où on est en pleine guerre froide, et ce film soviétique qui se pointe à Hollywood, il a décroché l'Oscar du meilleur film étranger. Il faut le faire, il faut qu'il soit quand même très bon pour que à Hollywood, en pleine guerre froide, en plein soviétisme, le film récolte l'Oscar du meilleur film étranger. Alors, ce qui est très intéressant dans ce film aussi, c'est qu'il n'y a pas de chichi, quoi. On dit qu'il n'y a pas de retouche digitale. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais bon, j'ai lu ça. Si, bon, il n'y a pas de soldats barbouillés ou gonflés. Il n'y a pas de bœufs déguisés. Enfin, tout est vrai, quoi.
Voilà. Il n'y a pas d'effets spéciaux en 1967.
Il n'y a pas d'effets spéciaux.
Les effets spéciaux sont arrivés beaucoup plus tard, oui.
Voilà, tu vois, Manu, tu viens à mon secours, quoi. Donc, tout est vrai, quoi. Les centaines de canons qui tonnent, qui crachent la fumée, on se croit en pleine guerre, quoi. Les mouvements des troupes qui... Attention, ils ont fait appel à des vrais généraux, hein. J'ai lu ça, c'est extraordinaire. Et parce que des milliers de personnes, il faut les gérer, hein. C'est une vraie bataille en ordre, quoi. Il y avait des généraux de l'armée qui... Non, mais c'est un truc de fou, quoi. Et réglé comme du papier à musique, on dit, hein. Des milliers de cavaliers qui foncent dans tous les coins, enfin c'est un film fantastique. Les chevaux qui se rassemblent, qui coulent la poussière, le feu, les explosions, les corps qui tombent, le brouillard, la neige, les nuages, les ciels, les étoiles. Enfin tout y est passé. Les paysages sans fin de la mer Russie, et puis les palais, les vernis craquants des maisons de camp, les rires, les pleurs, les éclats de voix, les hurlements de douleur, les chants profanes mêlés aux chants sacrés. Enfin tout y est, quoi. Ça, c'est guerre et paix, quoi. On peut pas faire plus que de faire un film comme ça, quoi.
C'est vrai que là, on découvre un Léon Tolstoï passionné et à fond dans ses trucs, et qu'il arrive à décrire un personnage, et ça peut être lui, avec 526 facettes. Ben on se dit, il a fait une analyse, là. Il est vraiment retourné chez le psy, et que je suppose que pour la prochaine émission, comme tu me l'as dit, on va parler de sa crise spirituelle. Je crois qu'il en a besoin et que là, il va passer à l'écriture du deuxième pavé qu'il a fait, Anna Karénine. Donc, je pense que ça sera dans la sixième émission et on retrouvera Claude Ferré en forme.
Franchement. Alors, donc, je voulais quand même vous dire que la première musique que vous avez vue vient d'un disque qui s'appelle Éternelle Russie. Et la merveilleuse voix que vous avez entendue, c'est de Svetlana Sinkovskaya, une amie de mon épouse et moi de Mio, qui parle parfaitement russe, parce qu'elle est russe, elle est de Samara même, là où Tolstoï avait acheté sa grande ferme, pas loin de la Volga.
Donc voilà. Là, Claude parle de la cour, de l'école.
De l'école, oui.
Le son,
voilà, c'est ça.
D'alphabet à l'école, dans une école russe. Donc qui a
voilà,
été,
avec les enfants de Svetlana. Et puis après, les deux derniers extraits de films que vous avez vus, ce sont des extraits du film de...
On les a entendus, je crois, Claude.
De Guerre et Paix.
On ne les a pas vus.
Ah, j'ai dit vus
ouais. Non, ouais.
On les a entendus. Mais vous les verrez bientôt.
Allez, pourquoi pas, on se fera un jour une projection.
Voilà.
Un écran. Entre 6 et 7 heures.
Ouais.
Alors, il va falloir prévoir des quoi. Qu'est-ce qu'il manque? Ils ne mangent pas des pop-corn en Russie dans les cinémas.
On peut le faire à deux fois, on le fait à deux fois quand même. Hein.
Ok, pas de problème. Bon, ben, je crois que l'émission touche à sa fin. On va remercier Claude pour ça. Sa gaieté et son enthousiasme, Z qui est derrière la vitre et qui enregistre cette émission. Mais écoutez, on se retrouve dans un mois et là, ça sera pour les aventures de Léon Tolstoï. Et là, il va nous écrire Anna Karénine et il va faire un tour chez le psy pour se soigner parce que là, il en a vraiment besoin après.
Lui
semble que si. Ça,
il va faire un regard intérieur.
Voilà, un regard intérieur. Une analyse spirituelle.
Personnelle, oui. Eh bien, écoutez, je vous souhaite bonne écoute et puis je vous dis à la prochaine émission. Au revoir.
Et merci.
Si un homme a beaucoup plus qu'il ne faut, c'est que d'autres manquent de l'essentiel. Lev Nikolaïevitch Tolstoï. Léon Tolstoï, sa vie, son œuvre, son engagement dans la Russie du 19e siècle. Une émission de Claude Ferret.